VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Le monde aujourd'hui, édition du vendredi 15 juillet 2016, en direct de Washington, Idrissa Sidoudia et Anne Albertson. Tout d'abord, la nouvelle tragédie qui s'est abattue sur la France. Cette fois-ci à Nice, Anne.
Au moins 84 personnes ont été tuées hier sur la promenade des Anglais à Nice, dans le sud-est de la France, par un camion qui a foncé sur la foule rassemblée pour le feu d'artifice de la fête nationale. Il s'agit d'une attaque terroriste, a déclaré le président François Hollande. Notre correspondant en France, Christian Panzou, fait le point.
Les faits ont eu lieu sur la promenade des Anglais, avenue historique et très touristique de la ville de Nice, sur la Côte d'Azur. Aux alentours de 22h30, heure française, de nombreux vacanciers étaient sur cette promenade, les yeux au ciel pour apprécier le feu d'artifice du 14 juillet. C'est à ce moment qu'un homme au volant d'un camion a foncé à très haute vitesse dans la foule, massée pour assister au spectacle. L'individu a renversé toutes les personnes qui se trouvaient sur son passage sur 2 km. Le bilan provisoire est extrêmement lourd. Au moins 80 morts et plus d'une centaine de blessés. L'homme en question, qui n'a pas hésité à ouvrir le feu, a rapidement été abattu par les forces de police et reste pour l'instant le seul suspect de cette attaque. Un pistolet a été retrouvé dans le véhicule, ainsi que des grenades et d'autres armes factices. La police judiciaire a aussi trouvé une carte d'identité au nom d'un franco-tunisien de 31 ans. Les enquêteurs ont lancé une procédure d'authentification. Le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, est en ce moment à Nice pour coordonner les différentes enquêtes. Le président de la République, François Hollande, a lui déjà décidé de prolonger une nouvelle fois l'état d'urgence de 3 mois. Depuis Paris, Christian Panzou pour VOA Afrique.
L'attentat commis hier soir à Nice, dans le sud-est de la France, qui a fait donc au moins 84 morts, dont des enfants, a provoqué une vague d'indignation au sein des dirigeants et responsables politiques dans le monde. Jean-Roger Bion.
Le président français François Hollande a fustigé une attaque dont le caractère terroriste ne peut être nié, qu'il a qualifié de monstruosité. C'est toute la France qui est sous la menace du terrorisme islamiste, a-t-il ajouté dans une allocution télévisée, annonçant la prolongation de l'état d'urgence de 3 mois qui devait s'achever le 26 juillet. Le premier ministre français Manuel Valls sur Twitter. La ville de Nice frappée par le terrorisme le jour de notre fête nationale. Immense douleur, le pays est en deuil. Les Français feront face. Le premier ministre canadien Justin Trudeau sur son compte Twitter. Les Canadiens sont bouleversés. La nouvelle première ministre britannique Theresa May est tenue informée du terrible incident à Nice selon Downing Street, qui s'est dit très choqué et inquiet. Le président brésilien par intérim Michel Temer a condamné cette abjecte et outrageante action perpétrée contre des innocents qui célébraient les valeurs universelles les plus élevées, la liberté des peuples, l'égalité entre les citoyens et la fraternité. Le président mexicain Enrique Peña Nieto a fait part de la solidarité de son pays, tandis que son homologue colombien Juan Manuel Santos a assuré rejeter toute forme de violence. Le français Pierre Moscovici, commissaire européen aux affaires économiques sur son compte Twitter, l'horreur a encore frappé la France le 14 juillet. Pensée émue et révoltée pour les victimes, hashtag Nice. Le président sénégalais Macky Sall, les attentats inqualifiables tuant lâchement autant de victimes innocentes ce soir à Nice m'attristent profondément.
Et ici aux États-Unis, le président Barack Obama a fermement condamné jeudi soir ce qui semble être une horrible attaque terroriste à Nice. Nous sommes solidaires de la France, notre plus vieil allié, au moment où elle fait face à cette attaque, a déclaré M. Obama dans un communiqué. En ce 14 juillet, fête nationale marquant la Révolution française de 1789, nous nous rappelons des valeurs démocratiques qui ont fait de la France une inspiration pour le monde entier, a ajouté M. Obama.
Son secrétaire d'État, John Kerry, qui avait assisté au défilé du 14 juillet à Paris, plus tôt dans la journée, a fustigé une attaque affreuse contre des personnes innocentes durant un jour qui célèbre la liberté, l'égalité et la fraternité. Et le maire de New York, Bill de Blasio, s'est dit écœuré par l'attentat insensé de Nice sur son compte Twitter.
Quant à la candidate démocrate à la Maison-Blanche, Hillary Clinton, elle s'est inquiétée dans une interview sur Fox News du manque de coopération entre les agences de renseignement américaines et européennes. L'un des problèmes en Europe, a expliqué l'ancienne secrétaire d'État, est que les pays du vieux continent ne partagent pas assez l'information. Donc je pense que nous avons besoin d'une diplomatie forte pour éviter des attaques à l'avenir, a déclaré Mme Clinton.
Son concurrent républicain pour la présidence américaine, Donald Trump, qui a reporté l'annonce de son colistier initialement prévu aujourd'hui en raison de l'horrible attaque de Nice, a décrit sur la même chaîne un terrorisme hors de contrôle en France et partout dans le monde. La faute, selon le milliardaire, incombe au président Barack Obama qui refuse de nommer, dit-il, le problème et d'utiliser le terme d'islamisme radical.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le reste de l'actualité, fin hier à Arusha, en Tanzanie, des consultations pour une sortie de crise au Burundi. Ce second round a connu une avancée significative. Des leaders de la plateforme CNARED, qui avaient boycotté les premières consultations de mai dernier, ont été conviés au dialogue. L'ancien président tanzanien et facilitateur, Benjamin Mkapa, doit se rendre compte dimanche à Kigali, au Rwanda, devant le sommet des chefs d'État de l'Union africaine, en vue de faire approuver son plan de sortie de crise, qui deviendrait contraignant pour toutes les parties. Pour les détails, Eric Manirakiza a joint à Arusha l'ancien président du Burundi, Sylvestre Ntibantunganya.
Je pense que le médiateur a une stratégie, à mon avis, très opportune, qui peut aider les uns et les autres à se rendre compte de la gravité de leur responsabilité par rapport aux attentes du peuple burundais aujourd'hui. Il a pu écouter tout le monde, il a pu constater là où se trouvent les obstacles. Et ce qu'il faut encourager, c'est qu'il faut cette peur, doit rendre compte à ceux qui l'ont mandaté, à l'occurrence, le chef d'État de la communauté de l'Afrique de l'Est. Et maintenant, il faudra que le chef d'État soutienne l'action que mène le facilitateur et cela pourra aider dans les jours à venir. En tout cas, en ce qui me concerne, mon souci est que chacun parmi les leaders sommes concernés. Moi-même y compris, nous fassions les efforts nécessaires pour que ces négociations que tous les Burundais attendent se réalisent en trouvant les solutions les plus adéquates et les plus efficaces possibles pour que cette crise soit surmontée, trouver des voies de solutions qui répondent effectivement aux attentes des Burundais et qui rassurent la région qui s'inquiète certainement des conséquences d'une quelconque dégénérescence de la crise burundaise.
Sylvestre Ntibantunganya, ancien président du Burundi, joint à Arusha.
Le président soudanais Omar al-Bashir, recherché pour crime de guerre par la Cour pénale internationale, est le bienvenu au Rwanda où l'Union africaine l'a invité à participer à son 27e sommet à partir de dimanche. Idriss Fall.
En marge des réunions préparatoires du sommet qui commence dimanche à Kigali, Louise Moutikiwabo, chef de la diplomatie rwandaise, a affirmé clair et net « Le Rwanda n'a pas ratifié le statut de Rome, traité fondateur de la CPI, et n'a donc aucune obligation ni droit d'arrêter le président soudanais. Elle a même qualifié de distraction la demande faite il y a 2 jours par la CPI pour que Kigali arrête Omar el-Béchir. » Elle a ajouté sans équivoque, quiconque invité par l'Union africaine à Kigali sera bienvenu et sera sous la protection du Rwanda. Selon Mme Moutikiwabo, la question d'un éventuel retrait des pays africains de la CPI est au menu des discussions du sommet. L'Union africaine accuse ce tribunal de viser injustement les Africains. Omar al-Béchir a effectué récemment des visites en Ouganda et à Djibouti pour assister à des cérémonies d'investiture. Mardi, la CPI a jugé que ces deux pays ont manqué à leurs obligations et a donc décidé d'en référer à l'ONU pour, je cite, « défaut d'exécution ».
En Mauritanie, un tribunal a condamné hier à 3 ans de prison ferme un journaliste militant d'un mouvement de l'opposition. Il est reproché à Cheikh Baye Ould Mohamed d'avoir lancé sa chaussure sur un ministre. Cette peine a été qualifiée d'insensée et d'excessive par la défense qui a décidé de faire appel. Pour le ministre concerné, Mohamed Lemine Ould Cheikh, les journalistes sont excusés pour leurs écrits et commentaires, mais pas pour les actes répréhensibles qu'ils commettent.
Le secrétaire d'État américain John Kerry doit rencontrer aujourd'hui à Moscou son homologue russe Sergueï Lavrov. À l'issue de longs pourparlers nocturnes avec Vladimir Poutine, ces pourparlers visent à étudier l'offre américaine de coopération militaire plus étroite entre les deux pays en Syrie. D'après un document du gouvernement américain révélé par le Washington Post, M. Kerry doit proposer aux Russes d'unir leurs efforts pour lutter ensemble contre le groupe État islamique et le front al-Nusra, la branche syrienne d'Al-Qaïda.
Le président américain Barack Obama a appelé jeudi la nouvelle première ministre britannique, Theresa May, pour la féliciter. Tatiana Mosso.
Le chef de l'exécutif américain est impatient de travailler avec Theresa May durant les 6 mois au pouvoir qui lui restent, a indiqué Josh Earnest, porte-parole de la Maison-Blanche. Interrogé sur la nomination à la tête de la diplomatie britannique de Boris Johnson, champion du Brexit, Josh Earnest est resté évasif. Monsieur Johnson, auteur de nombreuses gaffes diplomatiques, avait qualifié Barack Obama de président à moitié kényan. Fin avril, à Londres, le chef de l'exécutif américain avait fait un plaidoyer pour le maintien du Royaume-Uni au sein de l'Union européenne en mettant en garde contre les conséquences d'un Brexit. À peine nommé, Boris Johnson a tenté hier de rassurer tout le monde en disant que quitter l'Union européenne ne signifie pas quitter l'Europe. Il s'est entretenu au téléphone avec John Kerry, son homologue américain, qui lui a affirmé que la relation entre les deux pays restait essentielle, mais a aussi appelé à une approche délicate et mesurée du processus du Brexit.
La Minute Éco, John Linden.
En Côte d'Ivoire, Prozuma mise sur la toile. Le spécialiste ivoirien de la grande distribution vient en effet de lancer sa plateforme de commerce en ligne. Baptisée Yato, Prozuma franchit avec ce site internet un palier et complète sa gamme de distribution classique qui jusqu'ici n'était constituée que d'un réseau de magasins. La production de pétrole en Côte d'Ivoire s'est accrue de 40% en 5 ans. Les autorités ivoiriennes misent non seulement sur le cacao, mais aussi sur l'or noir. La Côte d'Ivoire, qui assure à elle seule 40% de la production mondiale de cacao, entend ainsi faire de l'exploitation du pétrole la deuxième mamelle de son économie. Les principaux leaders régionaux et interrégionaux de la monétique sont réunis à Dakar au Sénégal à l'occasion du Salon régional sur la monétique organisé par le groupement intermonétique Jim You et Moi sous le haut patronage du gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Cette 5e édition, qui se tient jusqu'au 15 juillet 2016, parle des enjeux et perspectives des opérations monétaires et bancaires mobiles comme vecteur de l'inclusion financière et de la bancarisation en Afrique. L'Union africaine parle d'une zone de libre-échange qui sera lancée en 2017. Cette initiative, inscrite dans l'agenda 2063, a été annoncée par la commissaire au commerce et à l'industrie de l'UEA, Fatima Assil. En prévision, 20 millions de dollars ont été mobilisés pour financer les projets initiaux dans les domaines de l'échange des biens et des services, de l'investissement et de la propriété intellectuelle.
Les sports à présent avec Nicolas Puneau. Nicolas, bonjour.
Bonjour Idrissa.
La Guinée a un nouvel entraîneur.
Mohamed Camphory Bangoura, dit la paix, a été choisi pour remplacer le français Luis Fernandez comme sélectionneur national de Guinée. Un poste qui avait été convoité par l'allemand Gernot Rohr ou encore le belge Paul Put. C'est ce qu'a annoncé hier la Fédération guinéenne de football. Lapé Bangoura assurait l'intérim de Luis Fernandez qui, vous vous en souvenez, avait démissionné au mois de mai. L'objectif de Lapé Bangoura est de qualifier le Sili national de Guinée pour la prochaine Coupe du monde de football qui aura lieu, je vous le rappelle, en 2018 en Russie. La Guinée ne s'est pas qualifiée pour la Coupe d'Afrique des Nations qui est prévue l'année prochaine au Gabon.
Le Portugal prend la 6e place du classement FIFA.
Oui, les Portugais qui ont remporté l'Euro 2016 ont grimpé de 2 rangs par rapport au précédent classement, tandis que la France progresse de 10 places pour prendre le 7e rang mondial. Ces progressions se font au détriment notamment de l'Espagne et du Brésil, qui perdent chacun 2 places et se retrouvent en 8e et 9e position. Le top 5 reste donc inchangé dans ce classement FIFA. Dans l'ordre, l'Argentine première devant la Belgique, la Colombie, l'Allemagne et le Chili.
L'agent italien de l'athlète Rita Jeptu inculpé pour l'avoir dopé.
Federico Rosa, un agent sportif italien installé au Kenya, a été inculpé par un tribunal de Nairobi qui le soupçonne d'avoir dopé son athlète phare, la marathonienne Rita Jepto. Selon l'acte d'inculpation, M. Rosa a, entre août et septembre 2014 à Eldoret, dans l'ouest du Kenya, conspiré pour administrer une substance interdite, en l'occurrence de l'EPO à Rita Jepto. La marathonienne âgée de 35 ans, trois fois victorieuse du marathon de Boston, a été suspendue pour dopage pour 2 ans. C'était en 2015.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seydoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Cameroun, Amnesty International dénonce les violations des droits de l'homme commises, selon l'ONG, par les autorités et les forces de sécurité camerounaises dans leur lutte contre Boko Haram. Le rapport publié mercredi à Yaoundé est contesté par les autorités camerounaises. Reportage de Moki Edwin Kinzeka à Yaoundé.
Dans son rapport intitulé « Bonne cause, mauvais moyen », Amnesty International indique que plus de 1000 personnes accusées de soutenir Boko Haram sont détenues dans des conditions horribles. Certains sont torturés jusqu'à la mort, d'autres décèdent de suite de malnutrition et maladie. Nombre d'entre eux sont détenus dans des prisons secrètes, sans accès à leur famille ni à leur avocat. Une centaine a déjà été condamnée à mort. Ce rapport a été présenté par Alioune Tin, directeur de l'Amnesty International d'Afrique de l'Ouest et du Centre.
Pour une prison qui doit contenir 350 personnes, nous avons 1500 âmes. L'alimentation pose problème, l'eau pose problème. Si bien que pratiquement tous les mois, vous avez des gens qui meurent. Amnesty a quand même documenté des cas où les gens, franchement, leur place n'est pas dans ces prisons. Notre rôle fondamental, c'est de rappeler que l'État a des obligations internationales et ne peut pas faire d'une partie du pays une situation d'exception, une situation de non-droit. La torture ne peut même pas être justifiée en temps de guerre, même dans la guerre contre la guerre. Et les responsables d'actes de torture doivent être jugés.
Le rapport indique que de juillet 2015 à juillet 2016, Boko Haram a organisé au moins 200 attaques avec 46 attentats au nord Cameroun. 500 citoyens et 66 membres des forces de sécurité ont perdu leur vie. Boko Haram a utilisé des filles pour mener plus de 50% de ces attaques. Les autorités camerounaises indiquent que ce rapport est malsain, est destiné pour ternir l'image du pays. Telle a été la position du porte-parole du gouvernement, Issa Chiruma Bakari.
Non seulement il n'est pas élogieux, non seulement il est loin de refléter la réalité, mais il est attentatoire à l'honneur de nos forces de défense et de sécurité qui font preuve de courage, de bravoure et grâce auxquelles, jusqu'à présent, pas un seul centimètre carré de notre territoire est occupé par ces barbares. Pendant qu'Amnesty International nous parle de 20 ou 30 ou 50 personnes qui seraient persécutées, torturées, machin, Amnesty International ne dit pas à la communauté internationale que plus de 2000 Camerounais sont morts, nos enfants ne vont plus à l'école, les paysans ne peuvent plus aller au champ, le tourisme est à l'arrêt. Nous nous posons la question de savoir si Amnesty International n'est pas devenue une officine de déstabilisation de notre nation. Mais de grâce, cessez de présenter la victime comme étant le bourreau. J'ai dit Amnesty, arrêtez.
Le rapport recommande à l'État camerounais d'arrêter ces abus qui se sont intensifiés en 2016. Moki, Edwin Kinzeka, VOA Afrique, Yaoundé.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Au sud Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo, la société civile de Shabunda continue à s'insurger contre la poursuite de l'exploitation minière sur la rivière Ulundi par la société chinoise Kunhu Mining. Cette société civile a décrété hier 2 journées ville morte dans tout Shabunda. Notre correspondant permanent au sud Kivu, Ernest Muhero, fait le point.
On va de revendications aux actions citoyennes à Chabunda depuis la sortie du rapport Global Witness au sujet de l'exploitation de l'or sur la rivière Olindi. Le président de la société civile de Chabunda, Joseph Mpeseni, affirme que la population a suivi son mot d'ordre.
Nous avons décrété deux journées ville morte, jeudi et vendredi. La population a observé cette ville morte presque à 100% ou 95%. Toute personne vivant dans le territoire de Chabunda s'est approprié cette circonstance de ville morte. Toute la population sont restées timides à la maison et qu'il n'y a aucune activité qui a été observée. Que les autorités en place fassent le plus tôt possible pour rapprocher la population avec la société KHM à travers ses représentants.
Pour l'administrateur à l'intérim du territoire de Chabunda, Dieudonné Kashombanya Bin Salé, certaines activités ont été certes perturbées, mais la vie ne s'est aucunement arrêtée dans l'entité qu'il administre.
Une ville morte, mais présentement, je suis dans le bureau, je suis en train de recevoir ce que je fais. La quotidienneté, il est vrai, et certaines activités ont été paralysées, mais il y a la circulation de la population, le marché est opérationnel, les centres de santé. J'étais à la chefferie, j'ai trouvé que le bureau était ouvert.
Après que la société civile de Chabunda ait réclamé un dédommagement à hauteur de 10% des productions de la société chinoise à Chabunda suivie de ces manifestations, le ministre provincial des mines au site Kivu Apollinaire Bulindi estime que la société civile est manipulée sans s'en rendre compte.
C'est de l'intoxication, il y a un objectif poursuivi. Même cette marche-là, elle est recommandée à partir de Bukavu et Kinshasa. Quelle est la société qui va amener l'argent pour distribuer à la population, hein? Nous devons réfléchir comme des intellectuels. S'ils avaient des conventions qui n'ont pas été honorées, ils n'ont qu'à traduire la société en justice. Mais c'est ça la loi.
Selon les présidents de la société civile de Chabunda, l'ultimatum exigeant la suspension des activités de Kunhun Mining n'a pas été observé et une tentative de l'administrateur du territoire de Chabunda de jouer l'interface entre cette société chinoise et la société civile le lundi 11 juillet a échoué. L'explication n'est pas la même auprès de l'autorité territoriale. Néanmoins, Dieudonné Bin Salé confirme son initiative de rechercher la paix sociale dans son entité.
La réunion tenue, le conseil de sécurité de la responsable et Kunhun Mining n'était pas présent puisque tous les responsables étaient à Bukavu. Nous attendons dès qu'ils arrivent pour leur faire voir la réclamation de la population.
Ernest Mouero, Bukavu, pour VOA Afrique.
Retrouvez La Voix de l'Amérique en RDC sur Radio Mungano à Beni, au Nord Kivu, sur 95.10 FM.
Beaucoup à travers le continent rêvent d'un visa africain. L'Union africaine, sous l'impulsion du Rwanda, va lancer un passeport symbolique qui, à terme, permettra aux dirigeants et citoyens africains de voyager librement. Précision de notre correspondant à Kigali, Maurice Magorane.
Le 27e sommet de l'Union africaine, du 17 au 18 juillet prochain à Kigali, marquera le lancement effectif du passeport africain d'après la ministre des Affaires étrangères rwandaise, Madame Louise Mushikiwabo.
Le passeport panafricain qui va être lancé au cours de ce sommet fait partie d'un processus. Donc nous sommes au début d'un processus d'intégration continentale. C'est pour cela que les quelques passeports qui seront délivrés ici à Kigali sont plus ou moins symboliques. Nous voulons signaler le début d'une ère de libre circulation.
L'objectif de ce passeport africain, c'est de faciliter à terme la circulation des personnes et des biens en vue de l'intégration économique et sociale du continent. Les premiers bénéficiaires en seront les chefs d'État et de gouvernement, les ministres des Affaires étrangères et les représentants permanents des États membres de l'Union africaine. Pour Jennifer Chiliga, la directrice de cabinet de la Commission de l'Union africaine, l'avènement du passeport africain sera un pas de plus vers une Afrique forte, prospère et intègre. Elle assure que cette fois-ci, c'est du concret.
Je peux vous assurer que ça ne sera pas un passeport de plus. La différence avec les autres passeports, lorsque vous les avez, vous êtes obligé d'avoir un visa pour le voyage. Mais celui-ci vous assure de voyager en Afrique sans visa.
Au cours de ce sommet, quelques passeports seront remis symboliquement au président, chef de gouvernement, ministre des Affaires étrangères et aux autres représentants. Ensuite, chaque pays prendra le relais Selon la ministre rwandaise des Affaires étrangères, Mme Louise Mushikiwabo,
il n'y aura pas de passeport africain que pour les chefs d'État, que pour les diplomates. Mais comme c'est un sommet de chefs d'État, de diplomates, on a voulu lancer ce processus d'une manière symbolique. Et puis la deuxième étape sera à chaque pays, en collaboration avec l'Union africaine, d'imprimer ses propres passeports et de pouvoir les distribuer selon la législation nationale.
Ce passeport s'inscrit dans un programme plus large, celui de l'agenda 2063, un plan d'action sur 50 ans fixé en 2015 pour faciliter l'intégration régionale africaine. Maurice Mangorané, VOA Afrique, Kigali.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Présidentielle américaine 2016, les républicains et démocrates ont achevé l'élaboration des programmes de leurs partis politiques et qui seront adoptés lors de leurs conventions respectives. Les précisions de Timothée de Langmaille.
Les républicains ont cherché, dans la mesure du possible, à ménager la chèvre et le chou. Ainsi, le candidat républicain présumé, Donald Trump, est un modéré par rapport à la question homosexuelle et celle de l'avortement. Mais le projet de son parti maintient que le mariage naturel est celui entre un homme et une femme. Le document réitère l'opposition des républicains à l'avortement. Pour ce qui est du libre-échange et du débat sur la suppression des barrières douanières entre les régions Asie-Pacifique et Amérique, les républicains avaient rejoint le président Obama pour appuyer les négociations. Donald Trump, lui, rejette cet accord, estimant que le partenariat transpacifique nuirait aux entreprises américaines. Pour contourner la difficulté, le programme prévoit que ce partenariat ne soit pas adopté au Congrès avant le changement attendu à la Maison-Blanche et que tous les accords commerciaux soient soigneusement passés à la loupe. Un point de convergence, c'est l'immigration. Le programme républicain appelle à la construction d'un mur tout le long de la frontière avec le Mexique et à une réforme de l'immigration, avec notamment une baisse de l'immigration légale. Autre point d'accord en politique étrangère, cette fois-ci, le programme républicain critique la politique de l'administration Obama en Irak ou en Libye, ainsi que l'accord sur le nucléaire avec Téhéran.
Chez les démocrates, le sénateur Bernie Sanders a peut-être perdu les primaires, mais il a réussi quand même à imposer nombre de ses idées dans le programme de son parti.
C'est le cas d'une revalorisation du salaire minimum fédéral de 7,25 $ à 15 $ l'heure, la lutte pour l'égalité de salaire entre hommes et femmes, ainsi que la réforme du financement des études supérieures ici aux États-Unis, de même que la gratuité de ces études dans certaines universités. Des idées chères à Bernie Sanders, ainsi que le maintien du coût de l'assurance maladie à un niveau accessible. Les démocrates se proposent de soutenir les programmes de visa et une réforme de l'immigration. Ils sont favorables à des mesures provisoires en faveur de certains immigrants en situation irrégulière, notamment les mineurs et les parents d'enfants nés ici aux États-Unis. Comme les républicains, les démocrates se disent favorables au port d'armes, mais demandent un examen approfondi du casier judiciaire des acheteurs, de même que l'interdiction de la vente de fusils d'assaut aux particuliers. Signalons enfin que la doyenne de la Cour suprême américaine, Ruth Bader Ginsburg, a dit jeudi regretter ses propos très durs sur Donald Trump qu'elle avait traité d'imposteur. Elle ajoute dans son communiqué qu'elle devrait éviter de faire des commentaires sur un candidat à une fonction publique et promet à l'avenir qu'elle sera plus prudente.
Dans l'Amérique et vous, ce vendredi, depuis le 1er juillet 2016, l'État de Virginie aux États-Unis a fixé l'âge du mariage des filles à 18 ans au lieu des 13 auparavant. Que pensez-vous des mariages précoces? Vos commentaires et réactions sont attendus en direct et sur Facebook. Rejoignez-moi, John Lydon, ce vendredi à 19h, temps universel, sur VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAafrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAafrique.com. À tout de suite.
Tous les lundis soirs, La Voix de l'Amérique met le sport à l'honneur.
Les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs, en direct à 19h, temps universel. Pour intervenir, c'est très simple. Laissez vos messages sur la page Facebook de Sporama ou par mail à fr@voanews.com. À très vite sur le terrain de la Voix de l'Amérique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. C'est tout pour cette édition matinale. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sidoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.